Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
1986, une année Coupe du Monde. Le bonheur attendu pour certains, pour une immense majorité semble-t-il. Une grande irritation, et plus que ça, pour les autres. Certes, l'indifférence pourrait exister également devant cette excitation extravagante. Mais les arbitres partiaux, mais les conneries des speakers, mais les combines et les bobos des joueurs. Voilà de quoi rendre Jean-Pierre Mocky furieux. Jean-Pierre Mocky, qui avait mis en scène à mort l'arbitre quelques années plus tôt, évoquait avec Serge Danet dans Microfilm la réalisation télévisée des matchs. Il regrettait que l'on n'entende pas les commentaires des joueurs et que l'on ne voit pas de gros plans des spectateurs. Mocky disait aussi comment il aimerait filmer un match de football à la façon d'Hitchcock, en suivant les joueurs avant le match. Encore une fois, les combines, les bobos des joueurs, les commentaires ineptes des journalistes. Nous étions, rappelons-le, en 1986, il y a si longtemps. Depuis, bien sûr, tout a changé.
Microfilm.
Microfilm. Bonsoir, Microfilm numéro 44, déjà. Et aujourd'hui, un sujet nouveau et un complice ancien. Le sujet nouveau, c'est le sport. Pour cause de mondial, pour cause de football, de soccer, comme disent les Américains. Et le complice ancien, c'est Jean-Pierre Mocky. On a un tel plaisir à faire venir Jean-Pierre Mocky pour parler de tout, et même de rien, qu'on a pris prétexte d'un brûlot qu'il a publié dans Libération, mais je crois qu'il y en a d'autres dans le matin.
Oui, dans le matin, dans les radios périphériques et locales.
Mocky s'est fait l'avocat du diable, c'est-à-dire qu'il s'est violemment dédouané de la mondialite et qu'il a repris son vieux cheval de bataille. C'est que... Alors on ne sait pas si c'est le sport ou ce qu'on en dit ou comment on le filme ou les supporters, mais enfin il y a quand même là-dedans de la connerie.
Oui, il y a beaucoup de conneries, mais vous savez, le sport, moi j'ai une petite dent contre le sport parce que chaque fois que je vais faire un gala en province avec un film ou chaque fois que j'ai un film qui sort, il y a toujours un match qui empêche les gens de rentrer dans mon cinéma. Alors donc, j'ai une haine commerciale contre le football déjà au départ. Et puis j'ai été moi-même footballeur, ce qui paraît curieux, mais dans les lycées... L'éducation physique...
On était obligé, de toute façon. Moi, j'étais arrière, alors c'est dire.
Et plutôt que de faire le con à faire de la barre fixe ou des trucs comme ça, des chevaux d'arçon, je préférais aller faire le goal. Mais le sport en lui-même n'est pas con. Ce qui est con, c'est que c'est devenu le premier sport. Je veux dire, c'est un sport maintenant qui est devenu quelque chose d'épouvantable, parce que tout le monde... moi, j'étais sur l'autoroute le soir de l'ouverture du Mondial, il n'y avait plus personne sur l'autoroute. Enfin, en Italie, le jour où l'Italie a joué, il n'y avait personne dans les rues. On aurait pu cambrioler n'importe quoi, ou on aurait pu faire n'importe quoi, mettre des bombes partout. Les gens étaient devant leur poste. Et ça, c'est même les femmes, aujourd'hui, en arrivent à regarder ça. Ce qui à l'époque, n'était pas vrai, parce que les femmes n'aimaient pas ça. Alors, je trouve que ça devient vraiment très con. C'est aussi con que la sécurité sociale ou des trucs comme ça. Je veux dire, c'est aussi difficile que d'aller... Je trouve ça dangereux, quoi. Comme, ça devient très dangereux, ce football. Et c'est pour ça que, dans plusieurs médias, j'ai voulu en montrer les côtés absurdes. En particulier, les speakers, les conneries qu'ils peuvent dire. Et aussi, le côté un petit peu torero... Enfin, dans les corridas, bon, il y a la mise à mort du taureau, mais enfin, c'est un rite. On sait qu'il y a d'abord les picadors, après, bon, on tue le taureau à tel moment, c'est le dernier acte. Alors que dans ces matchs, on a l'impression que les joueurs, si vous voulez, attendent un moment, il se passe rien pendant très longtemps. C'est-à-dire, c'est un peu creux, généralement, les matchs. Et j'avais vu dans, à Rouen, où j'ai préparé à mort l'arbitre, un jour, il pleuvait. Et brusquement, il y a eu 7 buts contre 1, parce que les mecs avaient envie de finir. Je veux dire, il y avait une espèce de nécessité de finir très vite parce qu'il pleuvait. D'autre part, ces gars, ils sont tout le temps en train d'avoir mal quelque part, parce que c'est le problème de l'acteur qui est grippé et qui est obligé de jouer. Alors, l'acteur, bon, il est sur une scène au show, bon, il a la grippe, il continue à jouer, il a la voix prise. Mais alors, ces types-là qui sont sur un terrain et qui ont, par exemple, un abcès entre les deux jambes et qui sont obligés de courir, ben, évidemment, ils sont obligés d'être là parce que c'est Platini. Mais si Platini a un anthrax, il est obligé de jouer. Parce qu'autrement, il n'y a pas de match. Alors, il est évidemment handicapé. Alors, il y a une espèce de triche devant ces 40 000 personnes qu'il accepte sans le savoir, peut-être qu'ils le savent.
Oui, il le sait de plus en plus, parce que maintenant, on est au courant du moindre bobo, du moindre...
Alors, quand le type... Il y a un côté un peu non-japonais, enfin, je ne sais pas, non-japonais, je ne sais pas, enfin, spectacle, si vous voulez. Les catch, par exemple. Le catch est un sport dans lequel l'ange blanc, qui a une cagoule, parce qu'il est à la tête de tout le monde, mais il met une cagoule pour avoir l'air plus mystérieux, ils se font des prises en catch qui sont fausses. Je veux dire, ils se sont entendus au départ. C'est deux larrons. Mmh. C'est les deux larrons qu'on retrouve partout dans la vie. Les larrons qui font des escroqueries, les larrons du bonto, les larrons. Mmh. Alors, c'est ça un petit peu. Alors, le catch, c'est quelque chose de complètement faux. Moi, j'ai parlé à des catcheurs. C'est un numéro de cirque. Mmh. Ils font aïe, ils ont pas mal. Alors, le football me paraît une espèce de choses un petit peu où les gens se concentrent sur le football, en parlent tous les matins le lendemain d'un match, on en parle dans les journaux partout, y compris dans le vôtre, mais je veux dire, dans tous les journaux, on détaille tout ça, et en réalité, on détaille quelque chose, une cérémonie, en fait. Mmh. Une cérémonie, comme le défi du cadre, des choses qui sont pas vraies, c'est pas un sport vrai, c'est un sport faux, un sport de convenance.
Mais c'est quoi un sport vrai, alors?
Un sport vrai, ce serait par exemple plus des sports, par exemple comme le type le cascadeur qui fait le saut de la mort. Mmh. Celui-là, il se tue.
Là, c'est pas un sport.
Et celui-là, il saute vraiment. Je sais pas. Il va vouloir franchir un pont avec une voiture enflammée. Et il va vraiment le faire. Mmh. On va pas mettre des fausses flammes. Il va pas dire. Il saute et puis il se tue ou il se tue pas. Alors ça, c'est pour moi, c'est un risque et un sport. Le parachutisme, dans un certain cas. Type qui saute, par exemple, d'un immeuble de 20 étages ou de 50 étages, il risque quand même de s'écraser par terre. Il y a un risque. Alors, j'appelle ça du sport. À partir du moment où c'est des sports de connivence, où il y en a un qui dit, tiens, je te passe le ballon parce que tu auras 10 000 balles de plus de prime, ça fait penser un peu au Tour de France, où finalement, le Tour de France, il y a des tas de combines. Il y a le type qui va gagner la montée du col de l'Aubis, qui va gagner 100 000 balles, mais le lendemain, il laissera le copain gagner 50 000 balles, et puis espérons un frigidaire à l'arrivée. Y en a un qui... Vous voyez, c'est un petit peu ce côté des bons points qu'on se donne, comme ça, entre copains. C'est un sport qui est faussé. Le football et le cyclisme, c'est des sports qui sont des sports qui ont un dénominateur commun, c'est la duperie vis-à-vis du public. C'est-à-dire, c'est un peu du chiqué, quoi. C'est au point de vue déroulement. Parce que ces matchs, c'est pas possible que tous ces types à 10 ou 15, à 11 plus exactement, j'avais 10 ou 15, parce que c'est entre 10 et 15, bon, ça fait 11. Mais si vous voulez, c'est quand même bizarre que ces types-là ne puissent pas marquer des buts pendant 45 minutes, quelquefois, ils sont à 0-0. C'est quand même bizarre, parce que c'est quand même des spécialistes, je veux dire. Même dans un match amateur, il y a des mecs qui marquent des buts au bout de 5 minutes, là.
Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de défense. C'est dur de marquer un but, hein.
C'est ouais, non, parce quand que quand même pas pour des caïds.
Non, parce que quand on voit un match en vrai, moi j'en ai vu quelques-uns au Mexique en vrai, j'ai vu France-Italie par exemple. À force de voir le foot à la télé, moi, parce que je suis pas un fanatique du foot, mais j'aime bien quand c'est bien joué, comme tout le monde, j'étais surpris parce que quand il y avait un but, je disais, ah bon, bah, je vais attendre le ralenti. Puis je dis, ah non, bon Dieu, c'est pour de vrai, il n'y a pas de ralenti. Je l'ai mal vu ce but.
Ouais, on le voit pas. Ouais.
Et on voit quand même, quand on est sur place, à quel point c'est quand même, il faut ramer pour à chaque fois. Ramener la balle vers les buts de l'autre, et à quel point on peut s'énerver, piétiner, perdre tous ses moyens, comme la France par rapport
à l'Allemagne.
Oui,
mais ils se foutent des coups. Quand ça marche pas, ils essayent d'accélérer quelquefois, mais ils se foutent des coups, mais ils hurlent. Et quelquefois, ils n'ont rien. Parce qu'on voit les coups de pied qu'on donne. Moi, je sais ce que c'est qu'un coup de pied qu'on reçoit. Non. Mais c'est quand même... Il y a quand même des types qui se traînent par terre, ils ont l'air d'être malades.
Et ça, moi, je voudrais en parler, parce que j'ai une idée là-dessus.
Non, rien du tout. Je veux dire, ils hurlent comme... Ça ressemble un peu à des drames... Je parlais du no japonais ou des spectacles de kabuki ou de choses comme ça, parce qu'ils exagèrent les choses. Quand quelqu'un tombe dans des trucs muets, ils en font trois fois plus que ce qu'ils ont. Et bon, mais ça, c'est... Et puis alors, ces arbitres qui sont extrêmement partiaux, finalement, parce qu'un arbitre, en principe, il doit être impartial. C'est sa définition. En fait, il est tout à fait partial. Parce que des fois, il siffle un corner, quelquefois, il ne le siffle pas, quelquefois, il met un carton jaune ou un carton rouge, mais quelquefois, il ne le met pas. Il est extrêmement vulnérable, cet arbitre.
Je veux dire, je vais te faire un procès là par rapport à ton film. C'est vrai que dans ton film, on voit pas beaucoup Eddie Mitchell en train de faire l'arbitre.
Non, parce que il avait bu un peu de whisky, on pouvait pas le tenir sur le sur le terrain. C'était le contraire.
Il y a quelque chose que la télé mexicaine a fait plus que d'habitude, qui était assez intéressant, qui était de beaucoup montrer les arbitres. Ouais. Il y a eu un match, je sais plus lequel, où l'arbitre, c'était Argentine-Uruguay. Et comme c'est deux pays qui peuvent pas se blairer depuis le début de l'histoire du football, et qui sont très méchants, surtout les Uruguayens, l'arbitre avait un très lourd rôle à jouer. Et donc, d'emblée, il a sorti un carton rouge. D'emblée. Dès la première minute, à la première faute. Et puis, il était là, tout seul, contre 22 personnes, quand même. Tout en noir. Et il brandissait sa tarjeta. Ouais. La carte. Et puis on se disait, s'il ne brandissait pas cette chose, qu'il protège, je crois qu'il lui casserait la gueule. Ouais. Et en gros plan, c'était assez beau. Il y avait une sorte de chorégraphie. Il était là, il tenait bon.
Ah oui,
quelqu'un qui était exposé.
Il y a de bons arbitres, mais
et je me disais, tiens, ça n'a jamais été montré. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez courageux, des fois.
Oui, c'est un torero, c'est un petit
torero. C'est un torero, mais c'était très chorégraphique. Il était là, très alors, exposé.
Il faut parler aussi de l'arbitre, parce que l'arbitre, c'est un maso quand même. Parce que en fait, il ne gagne pas de pognon. Contrairement aux joueurs, parce que les joueurs
sont
très chers.
Sur le match, non, mais il en gagne ailleurs.
Oui, ailleurs, mais là, tu sais que l'arbitre, en France en tout cas, il gagne 1800 balles par match. C'est-à-dire, c'est le cachet d'un acteur chez moi qui joue, qui dit bonjour monsieur. Bon, donc, ce monsieur s'expose, il passe à la télé. Il passe à la télé. Non, mais c'est le tarif syndical des acteurs. Bon, ça veut dire que finalement, un gars qui est diffusé dans 20 millions de foyers, qui a la responsabilité d'un jeu, d'une soirée télé, qui est vue par tout le monde. Cet arbitre, finalement, ne touche que 1800 balles. C'est pas terrible.
Non.
En plus, de toute façon, il va se faire engueuler par quelqu'un, par ceux qui perdent automatiquement, par les supporters du camp qui a perdu, puisqu'ils vont le taxer d'injustice.
Ou par Thierry Roland qui veut dire pourquoi on est allé chercher un arbitre tunisien.
Voilà, c'est ça. Oui, alors donc, ce type-là, le choix de ce métier d'arbitre, ce type, il a un autre métier, parce que les arbitres, ce sont des gars, en général, qui sont choisis parmi des gens qui professent et qui font quelque chose dans la vie et qui, en plus, font ça. Et qui, généralement, sont parachutés dans des villes dont ils ne font pas partie. Par exemple, à Nice, on prend un arbitre qui vient de Rouen. À Rouen, on prend un arbitre qui vient de Nice. On ne prend jamais un arbitre de Rouen pour Rouen. Bon, alors, à ce moment-là, on se demande quel est le plaisir physique, si tu veux, et rentable de cet arbitre. Et c'est ça ce qui m'a... J'ai interrogé des arbitres, d'ailleurs, là-dessus, quand je faisais mon film. Et on arrive mal à définir. Je dis, ce sont des masos, tout simplement, parce que finalement, ils vont être engueulés de toute façon pour 1800 balles.
Ouais, mais il y a aussi la
gloire.
Il doit y avoir une grande jouissance à un moment d'être celui qui a le pouvoir.
Voilà, alors c'est cette jouissance à prix réduit. Quoi. C'est un petit peu l'aiguilleur du ciel qui fait balader des avions, qui peut les faire tamponner pour
la jouissance est sans prix. Hein.
C'est un peu ce côté-là qui me fascine dans l'arbitre. Ouais. C'est ce côté mal payé, qui n'a pas la publicité, qui n'a pas sa vignette dans les tablettes de chocolat. Et qui est un personnage important tout en étant un personnage dérisoire au point de vue prix, au point de vue notoriété, etc. Parce que je ne sais pas tellement si les gens connaissent le nom des arbitres.
Non, c'est un peu la part maudite du jeu. Cela dit, je me demande si ça n'a pas un petit peu changé, parce que au moins la télé mexicaine, elle avait beaucoup de respect pour les arbitres. Ils avaient des commentaires sur l'arbitrage, est-ce qu'il était bon ou pas bon. Comme eux n'avaient pas beaucoup de chances de gagner, ils étaient assez
sereins. Parce que les arbitres de tennis...
Qu'avant, c'était beaucoup plus... c'était vraiment à mort l'arbitre, avant rien d'autre.
Parce que pour les arbitres de tennis, par exemple, on a constaté, et tu le sais peut-être, qu'ils ont une maladie du cou. à force de tourner la tête, ils attrapent ce que l'on appelle une...
couite.
Comment ça s'appelle, ils ont quelque chose. Ils finissent tous avec une gueule terrible. Ils ont non, mais c'est vrai, c'est presque des gueules cassées. Au bout de 20 ans, ils peuvent plus tenir la tête droite. Ils s'arrêtent à cause de ça, souvent. Parce qu'on ne sait pas.
On les met juge de ligne, là. Après.
Oui, après ils regardent droit,
ça regarde directement pour le service.
Ou alors ils ont une Minerve comme Eric von Schoenheim dans La Grande Illusion. Je veux dire, c'est terrible de tourner la tête sans arrêt comme ça, d'être attentionné. Là, au moins au football, ils courent, ils gardent la forme, quoi. Ils n'ont pas besoin d'aller chez le Vison Bombé. Ils gardent une forme en se baladant comme ça. Mais je veux dire, c'est quand même curieux ce métier d'arbitre.
Et toi, tu ne devrais pas tenter d'être arbitre?
Ah non, alors pas du tout. Pas gagner d'argent et se faire engueuler. Au moins au cinéma, on se fait engueuler, mais on gagne quelquefois un peu d'argent.
Mais tu crois que ça ne va pas à cause du sport lui-même ou aussi à cause de la façon dont tout le monde le voit de plus en plus à la télévision, c'est-à-dire complètement amputé, par exemple, de toute la bande sonore?
Oui,
sur un terrain, ça parle tout le temps.
Non, mais il y a des choses...
Jamais on entend ça.
Voilà, c'est-à-dire que si tu vois un reportage sur la boxe, par exemple, ou le catch... les reporters de télévision sont, disons, plus cinéastes. C'est-à-dire, on te montre les réactions des gens. Il y a des bonnes femmes qui se mettent le poing dans la gueule quand elles voient un type recevoir...
Encore des masos, oui.
Non, mais tu vois, on voit des femmes... Ah, vas-y, tue-le, etc. On voit ce genre de truc quand on a un reportage soit sur le catch, soit sur la boxe. Alors que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais moi, j'ai dû regarder pour les besoins du journalisme et quelques matchs du Mondial de A jusqu'à Z. On ne montre pas les spectateurs. Depuis le match du Hesel, on ne montre plus les spectateurs.
On a peur maintenant.
On entend hurler des gens comme des fous, mais on ne les montre pas. Ouais. Et on ne sait pas trop pourquoi, on ne montre plus les spectateurs. Et ça donne un côté très anonyme, ce match. On sent des milliers de gens dans ce stade, qui sont comme des têtes d'épingle, parce qu'on les voit comme ça dans les plans d'ensemble. Et on n'entend pas non plus ce que se disent les joueurs entre eux. Espèce de sale con, tu m'as fait ça, qu'est-ce qu'on va gagner? On n'entend pas les commentaires des gens. Soit on voit simplement, on les voit sauter au moment où ils ont gagné, sauter comme des enfants qui ont gagné une sucette ou quelque chose. Ils sautent comme ça pour se féliciter. Un peu comme des schizophrènes dans un hôpital psychiatrique, parce qu'ils ont, des réactions presque infantiles, je veux dire, de joie. Parce que ce sont des grands dadés, quand même, ce ne sont pas des bébés. Je veux dire, ce sont des gars qui ont une vingtaine, une trentaine d'années. Et ils sautent comme s'ils avaient, ils étaient en culotte courte dans une cour de lycée. Je veux dire, c'est...
Mais ça...
C'est joli. Non, mais je veux dire, c'est joli.
Ça dépend complètement à quelle distance est la caméra. Parce que quand la caméra est loin, on n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi ils font ces calipettes. Quand la caméra se rapproche, on se rend compte qu'ils sont très jeunes.
Ils sont très jeunes et ils sautent de joie, ils se prennent dans les bras.
La caméra
se
rapproche
côté scout,
très,
à ce moment-là, qui
très, très rarement. Toutes les fois qu'il y a eu dans des stades assez petits, par exemple au Mexique, des matchs où il y avait des plans rapprochés, on voyait très bien la violence, ou les tacles, ou les croche-pieds, ou les gens qui sacrifient par le maillot, ce qui fait que c'est quand même difficile de garder la balle. On comprenait beaucoup plus simplement que c'est effectivement quelque chose de très très proche de la cour de récréation, le football.
Ouais,
je crois d'ailleurs que c'est là qu'est la base de la force du football, c'est la cour de récréation.
Ah, c'est la cour de récréation.
C'est pas du tout le tournoi du Moyen-Âge, c'est vraiment autre chose. Et quand on met la caméra très loin... Je trouve qu'on rend pas un bon service parce qu'on n'est pas assez loin pour comprendre stratégiquement ce qui se passe. Or, le football est un sport qui se joue beaucoup dans la tête. C'est un sport assez intellectuel. Il faut toujours savoir où est tout le monde et il faut avoir des réflexes de placement des gens, des gens comme Platini, par exemple. Et donc, c'est pas assez loin pour ça. Il faudrait carrément que la caméra soit en haut, comme sur un baby-foot. Et c'est pas assez près pour qu'on voit l'aspect individuel des choses. Mais les gens se satisfont très bien de ça.
Non, mais moi, ce que je regrette, c'est-à-dire qu'au football, il n'y ait pas eu à un moment donné un rite, n'est-ce pas, une coutume, qui veuille que, comme au jeu d'échecs, si vous voulez, il y a le fou, le roi, le cheval, que chaque l'avançante soit habillée en vert, dans un camp en rouge dans l'autre. C'est-à-dire que les joueurs soient différenciés par rapport à leur fonction dans le match. C'est-à-dire là, ils sont tous en culotte. Bon, il y en a qui sont.
Ça change parce que justement.
Et ils sont tous pareils, ce qui fait que quand ils courent, finalement, on ne sait plus si c'est.
Ah oui, mais
c'est
là où il faut être un peu connaisseur, parce que le fait que quelqu'un qui est arrière tout d'un coup se met à jouer comme libéro, etc. Si tu connais pas le joueur, si tu n'as pas le secret.
Oui, mais c'est difficile de connaître le joueur dans des plans d'ensemble.
Non, parce que moi j'ai vu France-Italie du haut des gradins avec une bande de Mexicains qui étaient pour les Français, qui criaient Francia, Francia. Eux, ils connaissaient tous les joueurs par leur nom. Ils disaient Bueno Rostro. Maravilloso, Bossis.
Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement,
de loin, il connaissait chaque
comme
joueur.
Dans le cinéma, où il y a des cinéphiles qui peuvent te dire le nom du troisième rôle ou du quatrième rôle qui joue dans un tel film, la masse, c'est-à-dire, en fait, si le football était réservé à 1 million de spectateurs, c'est-à-dire de vrais connaisseurs, car je suppose que sur 20 millions de téléspectateurs, il y en a 1 million qui comprennent le jeu. Qui sont justement des gens qui comprennent le jeu et qui peuvent le suivre de A jusqu'à Z comme tu l'as suivi toi. Bon, mais les 19 millions autres sont comme n'importe quel, dans n'importe quel jeu ou dans n'importe quelle discipline. Ils suivent parce qu'il y en a 1 million qui démarre.
Oui,
et les autres, ils n'y comprennent que dalle. Parce que moi, j'ai vu des matchs suivis par des gens qui les suivent sans comprendre exactement ce qui se passe, sauf le but.
C'est sur le hors-jeu que c'est toujours formidable.
Les gars ne comprennent pas ce qui se passe. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre un corner et un pénalty, par exemple.
T'exagères, là.
Je suis sûr qu'il y a eu une amélioration mondiale de la connaissance des corners et des pénaltys. Tu prends 10 mecs devant un poste de télé, t'en as 2 qui suivent le jeu tel qu'il est, tel qu'il doit être suivi, et t'en as 8 qui savent pas qui est là. Ça, j'en suis persuadé, de la même façon que quand on regarde un opéra commis, un concert, on ne comprend pas les instruments qui interviennent. Il y a des gens qui ne savent pas. Dans le grand échiquier, quand il y a des trucs, moi j'ai assisté dans des cafés, des routiers où je m'arrêtais, je voyais le grand échiquier par exemple là, il y avait des gens qui regardaient, ils ne comprenaient rien. Je veux dire, il y en avait qui comprenaient, des mélomanes, bon, les autres ils comprenaient d'où ça venait, d'où venait la grosse caisse si on ne la montrait pas. Il y a des gens qui ne comprennent
ça,
pas.
C'est parce qu'il y a quand même de gros points communs. Entre la façon dont la télévision on montre la musique classique et le sport. C'est-à-dire qu'on pense que pour que les gens sachent que la grosse caisse joue, il faut montrer la grosse caisse.
Mais oui.
Donc on voit le type
qui attend, gens qui sont comme
boum.
Ça.
Et pour montrer qu'un but est marqué, on le montre 5 fois sous 5 angles différents, parce que si on le montrait pas, les gens ne seraient pas sûrs qu'il a été marqué.
Ouais.
Ça, c'est une conception très très naïve, pas du tout artiste, très... très basique, de montrer que si on montre pas la chose, elle n'existe pas. Or, montrer une balle, c'est tellement abstrait, une balle, ça va dans tous les sens, surtout au foot, que ça crée une irréalité par rapport à la vérité du jeu. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est pas ça, c'est un peu ce que tu dis, c'est même compris à moitié, ou au tiers, ou à un cinquième, ça plaît.
Non, mais ça plaît. Non, il y a quand même quelque chose de très curieux.
Les gens acceptent de ne pas tout comprendre de quelque chose qu'ils aiment bien.
Quand il y a un match.
Ce que je trouve aberrant.
Quand il y a un match.
On aime bien quelque chose, on aime bien comprendre.
On a dit que quand il y a l'Eurovision, par exemple, enfin, quand on diffuse un match important, il y a le stade lui-même où se déroule le match, qui comprend entre 20 et 50 ou 60 000 personnes. Ceux-là sont ceux qui assistent vraiment au match. Et puis, il y a 30 ou 40 ou 2 milliards de téléspectateurs qui, eux, sont assis dans leur fauteuil, qui ne sont pas dans le stade. Et alors c'est pour cela, eux ils voient le match différemment, puisqu'on leur fait des ralentis qu'on ne fait pas au spectateur qui est assis dans le match. Donc finalement, un match, c'est pour 60 000 personnes qui l'aient joué. C'est un petit peu comme si nous on faisait un film et que 60 000 personnes assistent aux prises de vue de ce film et qu'ensuite
voilà,
il y en ait tant de millions de gens qui le voient le film. C'est un petit peu la différence, en ne voyant pas les ratés qu'il y a eu, etc. Bon. Et on leur explique plus dans le montage d'un film, c'est un peu le montage télé de la retransmission d'un match où on leur montre 5 ou 6 fois en ralenti les buts, les moments importants du match. Donc ça veut dire qu'il y a 2 sortes de spectateurs. Il y a l'amateur qui est celui que je ne condamne pas, celui qui aime vraiment le football. Et pourquoi pas? Pourquoi pas quelqu'un aimerait le football? Pourquoi il n'aimerait pas le football, quelqu'un? Si quelqu'un est passionné par ça, comme des gens sont passionnés par les jeux d'échecs ou n'importe quoi, bon, c'est normal que quelqu'un aime le football. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y ait des mecs avec des pantoufles qui sont même pas capables d'envoyer une pièce de monnaie du 6e étage au rez-de-chaussée.
Oui, mais est-ce que tu pourrais pas dire pareil
Et qui regardent un match dans leurs pantoufles et qui disent vas-y Toto, vas-y machin, etc. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là?
Est-ce que tu pourrais pas dire la même chose de toutes les formes d'art populaire où il y a des gens qui font quelque chose de leur corps et puis d'autres qui les regardent et qui ne savent absolument pas faire la même chose et qui sont à la fois admiratifs mais que ça ne rend pas du tout jaloux?
Dans la musique.
Le cirque, les grands burlesques.
Il y a une différence entre la musique et
je ris à Charlot, tu dis ah, mais vous êtes pas capable de faire ce qu'il fait. Évidemment. C'est même pour ça qu'on le regarde. Est-ce que c'est pas ça aussi l'art populaire? C'est franchement admirer des gens qui font de leur corps quelque chose que nous, on est incapables de faire. Parce que le côté...
Oui, mais faire rire les gens, c'est quand même, disons, un privilège qui n'est pas celui d'un type qui tape dans un ballon, parce que le plaisir n'est pas le même.
Avant d'en venir à ce point essentiel, une pause musicale avec Eric Satie lui-même au piano, en direct des enfers. Sport et divertissement. Ça, c'était le foot vu du point de vue du goal, quand il n'y a pas de but. On reprend ce débat de fond avec Jean-Pierre Mocky sur le sport et surtout le football, puisque c'est ça qui était à l'ordre du jour. Moi, il y a quelque chose que j'ai compris, est un grand mot, mais au Mexique, ça fait un choc de voir, par exemple, un jour une corrida, ce qui m'est arrivé, le lendemain, de voir un match de foot. Parce que là, on voit quand même deux âges de la culture de masse. Un âge très ancien, barbare, archaïque, féodal, où on tue une bête, qui est un rituel très, très rapide. Ce que les gens qui connaissent pas la corrida savent pas, c'est que ça dure pas très longtemps. Un taureau fait pas long feu. Il a jamais vu d'être humain de près. Il est très naïf. Il a juste 10 minutes avant de comprendre que c'est trop tard pour lui. C'est très fort, la corrida, mais c'est vraiment un autre monde. Et c'est vraiment le monde féodal. C'est le monde des tournois. C'est le monde de la valeur individuelle. Par exemple, il n'y a pas de nationalisme en corrida. Moi, j'ai vu, il y avait un torero espagnol de Séville. Il a été hué ou applaudi absolument comme l'enfant du pays. Il n'y a aucun chauvinisme des gens. Ce n'est pas du tout national, c'est social, la corrida. C'est vraiment les riches et les pauvres, les hommes et les femmes, les humains et les bêtes. Donc, ça touche à quelque chose de fondamental. Hein. Ce n'est pas la peine de raffiner là-dessus. Voir le lendemain un match de foot... Et en voir en plus à la télévision, je me suis dit, mais c'est quand même le grand sport démocratique du XXe siècle. C'est normal finalement que ce soit le sport universel, puisque à part les Américains, qui résistent comme des fous, c'est le seul sport absolument universel. On sait que les Chinois jouent beaucoup au foot, ils veulent organiser dans l'an 2000 le mondial, ils sont déjà sur les rangs. Ça se joue en Asie, ça se joue dans le tiers-monde, ça se joue dans les deux grands continents, donc c'est l'Europe et l'Amérique latine. Mais il y a quelque chose dans le football qui peut-être n'existe dans aucun sport. Par exemple, ce que vous disiez sur la frime. Bon, la frime dans le catch, tout le monde sait qu'elle existe, donc c'est un jeu. La frime dans le foot, elle est quand même relative. Il y a des vrais coups. Il y a des gens réellement blessés.
Ah oui.
Donc, tout d'un coup, le fait qu'il y ait une caméra et le fait que ce soit filmé, que les gens voient en gros plan des gens se rouler par terre sur la pelouse, dans des positions absolument obscènes en plus, fait que tout d'un coup, on est devant des gamins qui joue dans la cour de récréation, et il y a un très très fort scénario, qui est le scénario que tout le monde a connu, sportif ou pas, c'est lui qui a commencé, c'est ouais. Moi qui ai mal, ouais. L'arbitre est injuste, et on prend à témoin, en se roulant par terre, tous les téléspectateurs, puisque c'est invisible sur le terrain, on voit pas très bien les coups. Et je pense que c'est une dramaturgie qui n'existe que dans le football, pas dans le rugby, qui est un sport aristocratique, évidemment pas dans le tennis. Il y a que Noah pour se rouler par terre. On ne sait pas si c'est déchiré la cuisse ou s'il fait semblant. Et je me demande si ça joue pas un rôle dans la familiarité des gens avec le football, qui doit être à peu près la même familiarité qu'on a quand on est, disons, pion et qu'on surveille une cour de récréation et qu'on fait attention à ce qui se passe pas trop mal. Mais quand même, il faut qu'il fasse de l'exercice. Et puis, il faut punir des fois. Le fait de la punition, c'est dans aucun sport à ce point-là. Le carton jaune, le carton rouge, c'est quand même des punitions. Tout d'un coup, les joueurs sont dans des positions vraiment de gamins. Enfin, faut voir quand même comment ils.
Oui, mais
les...
ça débouche.
Et je crois que c'est uniquement le football, et je crois que c'est ça qui fait du football un sport complètement démocratique. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la mise à mort rituelle féodale de la corrida, on a non seulement un simulacre de la mise à mort, parce que le but c'est quand même un pauvre petit simulacre, même si le but joue un peu le rôle pornographique de tirer un coup, hein, littéralement. Mais il y a toute une dramaturgie. de l'adolescence démocratique, disons. On joue tous dans la cour de récréation et puis que le meilleur gagne. Et ça, je crois que ce n'est qu'au football. Et évidemment, les médias donnent une amplification énorme à ça. Et je pense que ça permet à des gens qui connaissent pas les arcanes du jeu d'avoir quand même rapport à quelque chose qui ressemble au monde dans lequel ils vivent, qui est un monde de moins en moins féodal quand même, qui est un monde où les classes moyennes, où une sorte de culture démocratique, de l'égalité des chances, au départ du match, de l'importance et de participer, etc., devient presque aussi important que le côté on tue la bête ou pas, ou on gagne en 3-7 ou pas, ou on marque un essai ou pas, qui sont des sports beaucoup plus individuels.
Je crois aussi que le football a un prolongement le lendemain du match. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est un espéranto entre les gens qui ont
assisté. On peut en parler.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement simple comme jeu. Enfin, simple. À partir du moment où on en connaît les règles essentielles, ça permet le lendemain au café à des gens de classes différentes de se réunir autour du même sujet. Alors que déjà, le tennis, l'échec, enfin les échecs, le tennis, même le rugby, c'est des sports moins familiers. Donc, ça permet aux gens de parler le nom. Parce que je crois que moi, je me lève très souvent de bonne heure. J'arrive dans des cafés pour prendre mon café à 7h du matin. Je vois des éboueurs, des gens qui vont partir au travail ou qui viennent prendre un petit verre parce qu'ils ont travaillé la nuit, par exemple. Et ces gens-là ne savent pas quoi se dire. En fait, ils savent pas s'il faut parler de Chirac ou parler de ceci ou de cela ou de la bombe qui a explosé la veille ou du train qui a déraillé. Et le football est un espèce
de tranquillité. Film de qui est encore à l'affiche.
Oui, ou d'un film. Mais là, il y a une espèce de, tout le monde s'intéresse au football. Soit pour pas avoir l'air con. C'est-à-dire, par exemple, le type qui sert les cafés, même s'il déteste le football, comme ses clients aiment le football, il va en parler, il va se renseigner. Et alors, il y a autour de ce café, de ce café qui est au fond le début de la journée dans toutes les banlieues, dans toutes les villes du monde, il y a cette possibilité de parler de quelque chose de simple, d'un jeu d'enfant, en fait, de prolonger un peu l'adolescence, la façon de communiquer. C'est une façon de communiquer. Et quand j'ai tourné la tête contre les murs, je me suis aperçu d'une chose, c'est que j'étais dans un asile d'aliénés, et nous sommes un peu tous des aliénés, des schizophrènes légers, et je m'apercevais que les aliénés restaient chacun dans leur coin, dans la cour de récréation, alors là si on peut dire, dans la cour où ils se promenaient, et que le principe des éducateurs ou des gens, des surveillants, des infirmiers, c'était à un moment donné de former une ronde, c'est-à-dire de mettre chaque malade dans une forme, dans un cercle, et ensuite de prendre la main de chacun et de la réunir à la main de l'autre. Et à partir du moment où cette main était réunie, le cercle tournait. Ces gens qui étaient immobiles, à partir du moment où ils sentaient un contact de la main de l'autre, ils commençaient à tourner sans qu'on leur dise de tourner. Et ça m'a toujours fait penser à cette histoire du football. C'est-à-dire qu'il y a un tel dénominateur commun. Quand le type rentre avec l'équipe le matin, le mercredi matin ou le lundi matin, dans un café, immédiatement, il y en a un autre qui va dire « Tu as vu, hier, il aurait dû jouer comme ça.
Ouais. »
Ou « Il aurait dû faire ça. T'as vu, c'est lui qui a gagné. Ah ben non, c'est l'autre qui aurait dû gagner. Et tu as vu le corner à tel moment. » Et immédiatement, la conversation, si tu veux, démarre. Alors qu'elle ne pourrait pas, elle s'arrêterait si c'était un autre sujet.
Donc tout ça est tout à fait positif.
Non, mais je veux dire, c'est pour ça qu'au fond, peut-être le football est un moyen de, un euphorisant, en quelque sorte, pour les gens qui commencent leur matin, pour parler de quelque chose, au lieu de parler de leurs soucis, ils parlent de ça. Et je trouve que ça, dans ce sens-là, c'est positif.
Il y a aussi autre chose dans le football, c'est qu'il y a un très bon dosage entre l'individualisme et l'équipe.
Oui.
C'est-à-dire qu'on peut voir un individu, comme Maradona, mais il y a aussi l'équipe. Et ça crée plein de petits cercles. Il y a le tout petit cercle du joueur, surdoué, et après il y a le cercle de l'équipe, après il y a le cercle de la nation, du pays, puis après il y a le cercle du mondial, puis on arrive après à un moment où c'est l'humanité contre les extraterrestres. La seule chose qui était réjouissante finalement à Mexico, c'était le seul domaine au monde où les Américains ne gagnent pas. Parce que ça ne les intéresse pas, et qu'ils ont leur propre sport très très démocratique, qui est soit le football américain, soit le baseball. Avec ceci que le baseball est très fort aussi au Mexique et que contrairement à ce qu'on a pu penser en France, le pays n'a pas été mis à feu et à sang par le mondial parce que c'est pas du tout leur culture dominante, le football. C'est pas le Brésil, c'est pas l'Argentine. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier ici.
Mais c'est très latin, le football, finalement.
C'est très latin. Non, c'est très européen, c'est-à-dire c'est comme
latin
tous les...
Comme
tous les sports qui ont été codifiés par les Anglais, c'est très lié à la colonisation.
Mais c'est quand même les pays
trois
latins
qui... Le Nord, l'Amérique latine, les pays de l'Est.
Oui, mais quand même, l'Italie, l'Espagne et l'Amérique du Sud sont parmi, et l'Angleterre, bon, si on veut.
L'Angleterre, et, non. L'Allemagne.
L'Angleterre, mais c'est l'Allemagne.
Danemark.
Oui,
Belgique,
mais quand même,
non, non.
Je pense que...
Vous avez Nord-Sud et Nord-Sud en Europe et Nord-Sud dans le
si
monde.
Si on prend, par exemple, la
et fameuse... Est-Ouest. Politiquement, géopolitiquement, c'est un sport complet. Il
je
manque pas grand monde.
En Italie, le soir du jeu des Italiens, il n'y avait personne dans les rues. Le soir, je ne sais pas si l'équipe de Danoise a joué, je ne m'en rappelle pas.
Elle était écrasée par l'Espagne.
Voilà, bon, mais enfin, je ne suis pas sûr qu'à Copenhague, ce jour-là, il n'y avait pas quelques personnes dans la rue. Je veux dire, il y a quand même une différence. Je
non,
suis
non.
pas sûr.
Au Danemark aussi, ça a été terrible.
Ça a été terrible aussi.
Non.
Parce que j'ai l'impression que l'Italie et l'Espagne et le Brésil et l'Argentine tiennent en quelque sorte le record des supporters et des gens qui s'intéressent au football. C'est pour ça que j'estime, moi, c'est plus quelque chose de latin, parce que moi, je suis d'origine polonaise. Je sais qu'en Pologne, par exemple, j'ai de la famille, mais ils ne regardent pas tous le football au même point que les Italiens, par exemple. J'ai l'impression qu'il y a quand même une diversification du public dans certains pays.
Non, oui, c'est aussi parce que dans des pays comme l'Italie, le football est arrivé à son stade professionnel très cher. Ça veut dire que les gens savent aussi combien coûte un joueur. Et les transferts, c'est un peu comme les stars. Donc sans même aller voir les matchs, on sait combien coûte un joueur. Alors que dans des pays socialistes, si un joueur ne se met pas à jouer en dehors de son pays, comme Boniek par exemple, en Pologne, il a une gloire provinciale, mais il n'a pas cette dimension de la star qui, évidemment, est à vendre. Toute star est à vendre. Et c'est en train de gagner plein de sports qui étaient plutôt amateurs dans leur esprit, comme le vélo, par exemple. Le jour où Le Monde gagne le Tour de France, les Américains se mettent à s'intéresser au vélo et évidemment, ils feront au cyclisme ce qu'ils ont fait au tennis. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça devient quelque chose de mondialement visible parce qu'il y a beaucoup d'argent. Il ne faut pas être puritain. Le populo aime bien qu'il y ait beaucoup d'argent investi. Sinon,
le
côté sport amateur, Monterland, Saint-Exupéry, etc., ça tient pas la route. C'est un fantasme de fils d'Aristote déclassé. Les gens aiment bien qu'il y ait de la triche, qu'il y ait des valeurs vraies, qu'il y ait des règles du jeu et qu'il y ait beaucoup d'argent. S'il n'y a pas ces éléments-là, il n'y a pas le spectacle. En tant que le football est un petit résumé de la vie, que dans la vie, il y a ça, évidemment. Il y a des malins, il y a des crapules, il y a des matchs achetés. Par exemple, l'Italie-Cameroun, là, maintenant, c'est sûr que ça a été arrangé. Ça ne fait pas la une des journaux, hein. Donc c'est quasiment sûr.
Non, non,
il y a 4 ans.
Mais le cinéma revient un petit peu à ça aussi, d'ailleurs. Puisque les gens n'aiment que les films dont on parle beaucoup et où il y a beaucoup d'argent, ça revient un petit peu à ça aussi.
Oui, mais ils sont contraints d'aller au secours du succès.
Oui.
Et de faire comme si c'était eux qui l'avaient fait, ce succès, pour ne pas avoir l'air bête. Donc ça fait tout le monde des lâches. Avant de poser à Jean-Pierre Mocky la question fatidique, comment lui filmerait un match, on va repasser un peu du vieux Satie. Toujours dans les studios en direct, Eric Satie. Après ce pénalty pianistique, pour un cinéaste, donc pour quelqu'un qui fait bouger des corps devant une caméra et dans un espace donné, donc pour n'importe quel cinéaste, moi je pense que le sport devrait poser des questions. Pas forcément par rapport au sport, mais par rapport à comment on filme. Bon, on sait qu'il y a quand même des cinéastes qui s'intéressent beaucoup, on parlait de Godard tout à l'heure. Si tu avais envie de voir un match de foot tel que ça se passe vraiment, tel que tu as envie de le voir, où est-ce que tu mettrais les caméras et les micros?
Moi, je pourrais. Ce qui m'intéresserait dans le filmage d'un vrai match, alors sans en faire la satire, c'est de le filmer un peu comme Hitchcock l'aurait filmé, c'est-à-dire en fait avec le suspense, c'est-à-dire de prendre des gros plans, des plans de jambes, de voir à peu près, de détailler, de disséquer, d'autopsier le match. Alors que ce qu'on en représente à la télévision est toujours quelque chose dont on parlait tout à l'heure, c'est des plans d'ensemble et des ralentis. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir les expressions des joueurs. Il faudrait pratiquement faire tout le match au ralenti, c'est-à-dire n'en faire qu'une mi-temps, par exemple, qui durerait 1h30, et d'arrêter en suspense qui est-ce qui va gagner. C'est-à-dire terminer le film en ayant montré tous les visages des joueurs pendant la première mi-temps, de laisser la deuxième mi-temps tomber en disant quel est celui qui va gagner. Laisser ça un peu comme un film policier, se dire, tiens, on a montré tous les gros plans des 11 joueurs, deux fois 11 joueurs, et on va... Quelle est la troupe qui va gagner? Et à ce moment-là, de développer, de disséquer chaque mouvement de muscle, chaque visage, chaque expression, chaque caractère de joueur, en commençant déjà dans la préparation du match, c'est-à-dire dans les coulisses. C'est-à-dire faire en quelque sorte un pré-générique en montrant comment se comportent ces gens dans le vestiaire juste avant d'entrer, et ensuite de les voir sur le terrain. Et à ce moment-là, de filmer aussi une partie qui serait peut-être la partie de la police. En fait, quand on fait un film policier, les gangsters et les policiers, de montrer aussi les spectateurs avec leurs réactions, avec les différentes couches de spectateurs. C'est-à-dire d'analyser la foule qui est dans le match. C'est-à-dire par tranche. En fait, il y a le supporter qui se fout du match mais qui veut faire du bruit. Il y a celui qui est vraiment passionné. Il y a celui qui n'y comprend rien. Il y a celui qui dit à un autre ce qu'il pense. C'est-à-dire, moi, j'en ferai en fait une étude sociologique de 3/4 d'heure multipliée par 2. Je ne ferai pas tout le match parce que ce serait rasoir. Je veux dire, de faire 2 mi-temps, d'attendre l'entracte, de recommencer encore le même truc. Alors, où on pourrait commencer par la deuxième mi-temps en disant, là, ils ont déjà marqué tant. Faire une ellipse d'une première partie ou faire l'ellipse de la deuxième. Mais moi, je trouve qu'il manque... Il n'a pas été tourné à l'heure actuelle, en 1986, un vrai match de football dans le détail, en fait. Ce que j'aurais aimé faire, c'est un détail, une autopsie d'un match, dans le moindre détail. C'est ça qui m'intéresserait, moi. C'est pas de parfaire simplement la retransmission de match en le faisant un peu mieux, en faisant comme si Kubrick l'avait fait, ou comme si... C'est-à-dire de filmer la même chose, mais un peu mieux. Parce qu'on sait très bien que la télévision n'a pas le temps, qu'elle est un peu paresseuse, que les caméras sont dans les stades toujours placées au même endroit. Les deux pieds de la... Moi, je sais qu'à Rouen, où j'ai tourné, ben, les deux pieds de FR3, ils sont placés pratiquement avec du ciment. On les bien a sûr. Cimentés au sol dans la tribune du haut. Et puis, chaque fois qu'il y a un match, y a les mecs qui s'installent derrière ces caméras, qui sont inamovibles, qui peuvent pas bouger. Et que personne ne se fendra de descendre en courant dans l'arène, enfin dans le stade, pour aller prendre un plan particulier. Donc on est condamné ad aeternam à voir des matchs de football filmés toujours plus ou moins de la même façon. Alors ce qui peut être intéressant, c'est une fois pour un cinéaste comme moi ou comme un autre, mais d'essayer d'analyser de A jusqu'à Z ce travail un peu comme un film policier, et de voir... la réaction des types, des visages vraiment en gros plan. Mais ça, il faudrait refaire un match. On ne peut pas le faire avec un vrai match qui est trop court. Il faudrait tourner ça en 6 semaines. Alors, ça serait un peu faux aussi.
Vu un match au Brésil en direct. C'était Corinthians Vasco da Gama sur la pelouse. Et à un moment, il y a une grande star de novella brésilienne qui joue un rôle de footballeur dans la novella. Donc il y avait la même... tenue que les joueurs de São Paulo, qui rentraient quasiment incognito sur le terrain pour se montrer. Les gens l'applaudissaient, etc. Mais ils ne jouaient pas, c'était le 12e. Et l'arbitre est venu faire un scandale, disant c'est inadmissible que les stars de télévision viennent gâcher le jeu, etc. Donc il a arrêté le match, il y a eu scandale dans la foule, il a fait des remontrances, et on a appris le lendemain que c'était une partie du scénario, que l'arbitre devait engueuler ce joueur, et que c'était quand même le cinéma qui était là en amont et en aval. Et ça a beaucoup fait rire les Brésiliens. Donc la marge de manœuvre entre la frime totale et la frime relative, elle est très très légère. Mais ça, c'est très latin. Et c'est dans un pays qui a le football comme sa deuxième culture. Et les commentaires ? Oui, moi, je trouve
les commentaires, je crois que
c'est asphyxiant,
les speakers sont cons parce que malheureusement, quand il se passe rien, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, quand il n'y a pas de but marqué, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les speakers? Ils peuvent qu'attendre et commenter bêtement ce qu'on voit. Et s'il se passe rien de grave, ils peuvent rien dire. Donc ils meublent.
Ils sont payés au mot quand même.
Et peut-être.
Donc
oui,
ils disent des fois les prénoms des joueurs.
Voilà. Et alors là, quand ils commencent à dire le premier match du mondial que j'ai vu, c'était des Russes, à fond des Tchécoslovaques. Ils avaient tous des noms en ski. Personne ne savait qui était qui.
Il n'y avait pas de Tchèques cette année. C'était des Russes.
C'était des Russes. Ouais, mais c'était des Russes. Le premier match, l'ouverture.
Ou des Bulgares. Non, des Bulgares. C'était Bulgarie-Italie.
Bah oui. Alors par exemple, pour l'ouverture du mondial, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y a eu l'hymne. Ils se sont gourés d'hymne. Ils ont balancé l'hymne bulgare sur les Italiens et l'hymne italien sur les Bulgares. Bon, premier truc. Puis deuxièmement, après, il y a eu le type qui disait des conneries dans le style s'il n'y avait pas de gardien de but, la balle, elle rentrerait dans le camp. Bon, alors, pour dire des conneries comme ça, non, mais c'est ce qu'a dit le speaker de TF1 quand il n'avait rien à dire, il ne se passait rien. C'était le fameux match. Et puis il répétait tout le temps tous les galas d'ouverture du mondial, c'est 0-0. Alors il a commencé, et donc il se passera rien, disait Spire. Oui. Brusquement, il y a eu un but. Oui. Il a dit, ah ben non, mais alors c'est pas comme l'année dernière, il s'est passé quelque chose, il y a eu 0-1 à 0. Et puis à la fin, c'était 2-2, je crois, ça s'est terminé, ou 1-1, ça s'est terminé. Comme on a dit, ben alors c'est pas comme l'année dernière. C'est-à-dire qu'il dit des lapalissades. Finalement, ce type, il vaudrait mieux un commentaire musical à la limite.
Oh, ça serait bien, oui.
Je veux dire, parce que il ne dit que des conneries, Eric le type. Satie, il ne peut dire que des conneries, parce que... Alors quand il n'a rien à dire, il dit des trucs complètement cons. Il dit... c'est bizarre.
En plus, c'est quand même quelque chose qui a disparu chez les commentateurs, c'est l'honnêteté de dire, tiens, on s'est trompé, le match, c'est pas du tout ce qu'on pensait qu'il allait être. Par exemple, cette idée qui est un cliché, que le match d'ouverture est toujours ennuyeux, que t'es pas vrai cette année, c'était un match tout à fait correct. Eh ben, il n'y en a pas un qui a dit, bah non, pour une fois, la règle n'est pas respectée. Personne ne parle de ce qui se passe dans le présent. C'est-à-dire on dirait que le commentateur est là pour rassurer les gens sur le fait que, de toute façon, quoi qu'il se passe, c'est déjà inscrit ailleurs.
Non, mais c'est-à-dire que c'est ça a un côté démago, le speaker est démago, mais il rend le jeu, disons, dérisoire. C'est-à-dire, peut-être que le jeu, s'il n'y avait pas ce commentaire, pourrait passer un peu comme une symphonie de Berlioz, je ne sais pas quoi, enfin un mouvement, disons, un western, ce qu'on veut. Mais c'est le commentaire du type qui a l'air de parler à des imbéciles, parce qu'il a l'air de s'adresser à une bande d'imbéciles, à 40 000 imbéciles, plus 20 milliards d'imbéciles. Il a l'impression de traiter les gens...
Selon ta thèse, ces gens sont quand même des imbéciles, en grande majorité.
ils sont imbéciles de regarder bêtement ces matchs.
Ils n'ont pas ce qu'ils méritent.
Mais c'est pas forcément... Ils sont imbéciles pendant le moment où ils le regardent. Ils redeviennent intelligents après, je suppose. Parce que tout le monde n'est pas imbécile. Mais je veux dire, ils deviennent imbéciles comme... Ils deviennent imbéciles pendant ce temps-là, parce qu'ils écoutent ça. Ils ne protestent pas. La télévision reçoit des tas de lettres de protestation contre Daniel Gilbert, contre je ne sais pas quoi.
Ce qui est normal.
Oui, mais attention, les speakers, c'est Daniel Gilbert, je veux dire, c'est pareil. Et là, on ne proteste pas contre la connerie des speakers. Personne ne proteste.
Non, parce qu'ils sont les petits parasites essentiels d'un grand rite.
Ils gâtent le truc.
Ah, ils gâtent tout.
Ils gâtent le truc comme un type qui parle quand on écoute de la belle musique. Par exemple, si on peut considérer le football comme une belle musique, et le type qui dit, ah ben, alors s'il n'y avait pas de gardien de but, et la balle, elle rentrerait. C'est des grosses conneries, ça. Je veux dire, ça sert à rien. Je veux dire, ça avilie.
Oui, mais c'est aussi toi qui as donné la solution. C'est que le foot, c'est fait pour faire parler.
Oui, mais pas à ce moment-là,
si,
le lendemain.
Aussi, tout le temps.
Là,
avant,
trop,
pendant,
en
après.
Le lendemain,
le
ça, ces commentaires le devraient être faits le lendemain, mais pas le jour.
Le silence serait absolument insupportable. Moi, j'ai toujours rêvé d'un match de foot qui serait filmé à la strobe, c'est-à-dire avec la caméra à côté du but, et on aurait la bande-son hyper réaliste, et il y aurait un but qu'on ne verrait pas, et les gens casseraient leur poste. Enfin, je pense qu'on pourrait avoir une révolution dans plein de pays, si simplement, au lieu de montrer 5 fois le but au ralenti, on faisait un plan à côté, en disant, écoutez le son, vous pouvez sentir le but arriver, comme à la radio d'ailleurs, la radio est beaucoup plus forte. Mais personne ne fera jamais ça. Je pense que là, on toucherait à quelque chose de profondément tabou.
C'est vrai, on serait tué, le type.
On serait tué. Je pense qu'on serait tué.
Le type qui ferait TF1, qui enverrait des reporters faire un match où on ne verrait pas les buts, mais on les laisserait deviner.
Ah non, je crois qu'il serait lynché. Avec l'assentiment général.
Non, mais c'est vrai que c'est un maintenant c'est devenu quelque chose de très grave. Je veux dire, on peut pas toucher à ça. Moi déjà, quand j'ai écrit ces articles, je suis allé dans le café du coin là et les gens me regardent d'un drôle d'air. Je veux dire, ils disent
t'aurais dû d'ailleurs signer un pseudo.
Qu'est-ce que c'est ce type qui dit tout ça sur notre sport vénéré, etc. Et ils acceptent la connerie de ce speaker et ce speaker se sentant protégé en quelque sorte accumule les conneries. Il ne se contrôle même pas. Je veux dire, il a une diarrhée littéraire. Qui est évident, ils s'en foutent complètement.
Mais par exemple, il y a quand même une différence de culture avec les anglo-saxons, parce que les Américains ne s'intéressent pas du tout au foot, mais là, quand même, ils ont fait dans Time ou Newsweek 5-6 pages sur Maradona, etc. Et ils ont fait des petits croquis sur ce but extraordinaire de Maradona contre l'Angleterre, je crois, où il dribble 5-6 personnes, qui est une petite merveille dans le genre. Et ils ont fait des croquis pour expliquer aux gens ce que c'est que le soccer. Et ben, dans des cultures où le foot est vraiment le sport dominant, jamais on fera ça. C'est-à-dire aider les gens à comprendre ou même à revoir pourquoi un truc est vraiment exceptionnel, ça ne se fait pas. Il vaut mieux en parler entre soi et se donner le sentiment qu'on a tout compris plutôt que d'admettre qu'on l'a mal vu et que c'est encore plus beau à reconstituer.
Ouais, mais là, il y a un autre problème qui se pose. On se demande pourquoi il n'y a pas plus d'exploits dans le style de celui dont tu parles, de Maradona. C'est parce que, au fond, il n'y a pas beaucoup de matchs où il se passe des choses extraordinaires.
Ouais.
Parce que si tu regardes les matchs tous les dimanches, tous les samedis, il y a des matchs dans toute la France. Et on peut compter sur les doigts les matchs intéressants. Je veux dire, les matchs où où il y a un joueur qui fait quelque chose de ce type. Donc, en réalité, quand on va au cirque et qu'on voit le saut de la mort, on voit le saut de la mort. Je veux dire, c'est un peu comme si on allait au cirque et puis qu'il ne se passe rien, qu'il n'y ait pas de saut de la mort, que personne ne fasse rien dans le cirque, personne n'irait au cirque. Je veux dire, et pourtant, là, il continue à y aller même quand il ne se passe rien. Car moi, j'ai assisté à des matchs où, par exemple, Laval-Sochaux, une fois, il ne s'est rien passé du tout. Alors, on paye 70 balles et puis il ne se passe rien. Et alors, un jour, il y a ce truc de Maradona, mais c'est rarissime. C'est comme si les gens allaient au cinéma, ils voyaient 10 films où il se passe rien du tout et ils continuent à aller pour voir un 11e où il se passe quelque chose. C'est pas tout à fait comme ça, le cinéma, quand même.
Oui.
Les gens vont plutôt voir des films où il se passe quelque chose, même si ça n'est que quelque chose de spectaculaire. Mais c'est rare que des types aillent 10 fois voir une connerie, je veux dire. Et là, il y a 10 matchs cons, plus pour un match qui est bien. Et les gens, ils vont quand même. C'est-à-dire, on n'arrive pas à les dégoûter.
Non, c'est impossible, c'est trop tard. On n'y peut plus rien. Jean-Pierre Mocky, merci parce que l'émission est finie. On va certainement se revoir à la rentrée quand vous aurez fini de tourner Le Miraculé
avec
à Lourdes.
Poiret et Zéro, voilà.
Avec Eric Satie à la musique. Merci.
C'était Microfilm de Serge Danet, Le football selon Jean-Pierre Mocky, première diffusion sur France Culture le 20 juillet 1986.